Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Et c'est bon pour moi. Salut Julien.
Salut Bart.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Eh bien écoute, je suis vraiment très très honoré, très content d'être là aujourd'hui. Pour les gens qui ont les images, on est dans le showroom des Koi avec qui tu travailles depuis un moment. Je suis chez toi en plus. Et je suis très très honoré parce que déjà, comme je te l'ai dit, je suis un grand fan d'endurance, moi plutôt côté triathlon. Je suis peu sorti des routes pour aller sur les chemins, mais j'ai quand même beaucoup d'admiration pour à la fois l'athlète que tu es et puis pour le sportif aussi super accessible, parce qu'on me l'a toujours dit. Toujours dit, ouais, va voir Julien, il est super sympa et tout, il est super cool. Donc, je suis très content d'être là aujourd'hui. J'espère que le plaisir est partagé.
Tout à fait, merci.
Écoute, on va parler de beaucoup de choses. Je t'ai fait un peu le programme là juste avant pour te mettre l'eau à la bouche. On va parler effectivement d'endurance, un peu de préparation mentale en solo. On le verra, mais t'es jamais passé par un préparateur mental. On va parler aussi un peu de choix de matériel. On va parler de tes projets actuels et projets futurs parce que je sais que tu continues énormément à être actif. Je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce que c'est être manager d'un team et de créer un team. Donc plein de petites questions, tu pourras esquiver celles qui ne te plaisent pas, comme je te l'ai dit. Mais il y a une tradition sur le podcast qu'on a posé plus de 200 fois maintenant à plus de 200 athlètes, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport, je pense, lorsque j'étais tout petit, mon père suivait les saisons de Formule 1 à la télé. Donc c'est la Formule 1 et le sport auto, puisqu'également mon père était copilote dans l'automobile. Donc dès tout petit, on était sur les rallyes régionaux et nationaux. Voilà, donc c'était plutôt dans le sport mécanique.
Ok. À quel âge, toi, t'as passé ta première vitesse ?
En voiture ?
Ouais.
J'ai conduit sans vitesse, puisque j'étais trop petit pour toucher les pédales. Mais dans la propriété de mes grands-parents, j'ai appris à conduire sur les jeux de mon grand-père dès mes 4 ans.
Ok. Ah ouais, effectivement, c'est tôt. Ouais. Attends, le mien, il vient d'avoir 3 ans, là. Ok. Est-ce que je le vois dans un an lui filer le volant ? Je sais pas encore. Mais il demande, en tout cas. Je le mets sur les genoux... Ça le fait plaisir. Ok, donc tu as conduit très jeune. Est-ce que c'était un rêve, gamin, de piloter et de faire comme papa ?
Piloter, après, très rapidement, en fait, j'étais un gamin hyperactif et tout le temps dehors. Donc, j'ai commencé, comme tous les enfants, sur les petits jouets, notamment sur un tracteur à pédales que j'ai usé jusqu'à ce que les roues se fendent en deux, les roues avant et les roues arrière se fendent en deux, tellement j'ai fait de kilomètres. Je pense qu'on aurait dû mettre un compteur dessus. petit vélo. Donc en fait, tout ce qui était à roue me fascinait. Pour la petite anecdote, le premier mot que j'ai dit, j'habitais à la campagne, le premier mot que j'ai dit, c'était tracteur.
Vraiment ?
Oui, j'étais fasciné par tout, avant papa, avant maman. Okay. J'étais fasciné par tout ce qui avait des roues. Et naturellement, j'ai pu pratiquer avant de rouler sur des engins motorisés, j'ai pu rouler sur des engins à pédales. Mais la compétition est venue vraiment, vraiment plus tard. Pour moi, c'était juste un moyen de s'amuser et d'être en extérieur.
Ok. Donc ouais, te dépenser, ouais, j'imagine.
Voilà, tout à fait. J'ai eu la chance de grandir dans un petit village avec beaucoup d'espace au cœur du massif des Vosges. Donc j'étais tout le temps à l'extérieur, quel que soit le temps.
Ok. Et comment il était le petit Julien à l'école, sur les bancs de l'école? Parce que je sais que pour beaucoup d'athlètes de haut niveau, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je sais que j'étais un grand dissipé à l'école et j'avais tendance à beaucoup regarder par la fenêtre et à rêver un peu de nature.
Bah, c'était le cas, mais justement, le sport m'a permis de me remettre plus dans le droit chemin. C'est que j'étais tout le temps en train de regarder dehors, en train de rêver. Et puis, donc c'était compliqué durant le primaire. La première chose qui m'a canalisé, c'est la pratique du judo.
C'est le premier sport que, on va dire, plus.
C'est le premier sport que j'ai fait longtemps. Donc, j'ai commencé vers les 8-9 ans, je pense, et j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a inculqué une discipline. La première personne que j'ai vraiment respectée et écoutée, c'était mon prof de judo, parce que en plus, il avait la carrure pour, il faisait un peu plus de 2 mètres, 130 kilos.
Ça force le risque.
Et c'est pas comme le maître d'école, si on respecte pas les consignes, on prend des chutes et on fait des pompes, donc ça calme. Et c'est vrai que c'est un beau sport pour apprendre la discipline, le respect, la discipline. Et ça m'a vraiment canalisé. Également, ça m'a appris à tomber, parce que je suis allé énormément au service des urgences lorsque j'étais gamin, 10 fois durant mes 10 premières années de vie. Et oui, ouais, j'étais souvent. Et le judo m'a canalisé, mais m'a aussi appris à tomber. Donc ça m'a été utile pour le reste de ma vie.
Ah bah j'imagine, ouais, carrément.
Après, je ne serais pas devenu un champion de judo. j'ai fait champion régional. Mais clairement.
Quelle ceinture du coup ?
Ceinture marron, puisqu'ensuite j'ai commencé le VTT. Et pour passer ceinture noire, il faut des points en compétition. Et ça correspondait à la période où j'ai débuté les compétitions de VTT et je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai jamais eu mes points en compétition pour obtenir la ceinture noire. Et puis ensuite, j'ai arrêté judo pour me lancer à fond dans le VTT, parce que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. La compétition judo, ce n'est pas ce qui me plaisait le plus. Puis comme je le disais, je n'avais pas les capacités, les fibres musculaires, je suis typé un sport d'endurance. Donc je serais pas devenu un champion de judo.
Ouais, tu penses, c'est vrai qu'il faut être hyper puissant, quoi. Il faut énormément d'explosivité, il faut beaucoup de fibres rapides pour le judo, je pense.
C'était un peu long pour moi de compétition de judo, il y a beaucoup d'attentes. J'aurais pas poursuivi des années et des années. C'était une bonne école. Parce que ça sert, oui, ça laisse, le judo permet d'acquérir, je disais, le respect, etc. Mais également l'équilibre, savoir chuter, les qualités de force, qui sont ensuite utiles lorsqu'on pratique d'autres sports.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait beaucoup de judo également. Mon père était champion de France junior. Donc, à 4 ans, j'étais sur un tatami. Et je suis monté jusqu'à ceinture verte. En fait, j'aimais pas le duel. Tu vois, et je voulais te poser la question, parce que je sais que tu faisais du judo. Est-ce que toi, t'aimais l'affrontement, tu vois, le one-to-one, de se regarder dans les yeux, de se mettre un peu aussi des petits coups de vis, tu vois, parce que ça reste un duel, un affrontement, tu vois.
Moi, je sais que j'aimais. Moi, je pense que c'était un amusement, mais non, pas forcément. Et en fait, j'ai l'esprit de compétition uniquement lorsqu'il s'agit de faire la course. J'ai pas du tout l'esprit de compétition pour autre chose. Par contre, quand il s'agit de faire la course, que ce soit en courant ou sur des roues, là, voilà, j'ai le truc. Par contre, un affrontement, non, c'est peut être un amusement. Mais il y a pas ce petit truc qui fait que je vais aller me dépasser sur un duel.
Ok, bah je peux le comprendre. Ouais. Mais on va en reparler après, parce que je sais que tu dis souvent qu'en compétition tu te transcendes et tu as cette capacité à faire beaucoup plus que ce que tu peux faire à l'entraînement. Donc effectivement, si tu l'as pas sur un petit duel de judo, c'est sûr que ça te fait pas gagner, quoi. Faut avoir envie de gagner, quoi.
Ouais, mais... voilà, c'est ça. C'est pareil, j'ai pratiqué le deuxième sport que j'ai pratiqué longtemps avant de commencer le VTT, c'est le ski de descente. Donc j'ai appris à skier à 3 ans, étant originaire des Vosges, j'étais proche des pistes. Et j'ai fait de la compétition jusqu'à l'âge de 16 ans, pareil, jusqu'à mes débuts en compétition VTT. Et pareil, je ne serais pas devenu un champion de ski, parce que c'était un amusement pour moi, mais à un moment, taper dans les piquets, ça me lassait vite. Donc avec mon frère, on était plus souvent, au lieu de repérer les parcours de slalom, on était dans la forêt à faire des sauts et à faire des cons. Puis du coup, il n'y avait pas ce petit truc pareil. Là aussi, le ski, comme le judo, c'est un sport d'explosivité. Et j'avais pas intrinsèquement, j'avais pas les capacités pour ultra performer dans ce sport-là. Mais pareil, ça m'a apporté beaucoup en développement de force, de l'équilibre, du sens des trajectoires. C'était intéressant de pratiquer durant ces années le ski de descente. Et puis, pratiquer beaucoup d'autres sports pour lesquels je me suis vraiment lassé très vite. J'ai fait 3 entraînements de foot, 3 mercredis. J'ai dit à ma mère, non, mais on ne passe pas le ballon, c'est nul le foot, il n'y a qu'un ballon pour tout le monde. c'est pas marrant, quoi. Je fais du canoë-kayak, une petite saison, du basket, du volley, mais très rapidement, la natation. Et je me lassais assez vite, jusqu'à ce que je découvre le VTT. Tout de suite, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, parce que je me suis rendu compte très vite que j'étais doué. Parce que c'était le coup de cœur, quoi. Et que j'avais vraiment envie d'y aller, d'y retourner et de faire que ça, quoi.
Tu saurais dire pourquoi t'as accroché au-delà, tu vois, du fait que t'as effectivement peut-être la morphologie, la morpho-anatomie et le physique pour, tu vois, et une appétence directe pour. Tu te souviens, je sais pas, de la sensation que t'as aimée Est-ce que c'est justement faire les sauts,
C'est vraiment un tout. Tout est réuni dans la pratique du VTT, c'est-à-dire que j'ai toujours été dehors, donc j'aurais pas pu faire un sport d'intérieur. C'est pour ça que je me serais vite lassé du judo. En pleine nature. Et puis, ça allie le côté sport d'endurance, mais sport technique, où on prend du plaisir, on fait des sauts, où il y a des sensations. Et puis, on fait la course. C'est ça qui... Donc, tout était réuni pour que ça me plaise.
Okay. Et la partie mécanique, ça n'a jamais, j'imagine, effrayé, du coup. Tu devais avoir papa qui...
Non,
papa qui,
également, c'est ça qui me plaisait, c'est que c'est l'une des seules disciplines du cyclisme qui peut être presque considérée comme un sport mécanique. On dit pas un coureur de VTT, on dit un pilote VTT. Parce que les choix matériels, on ne peut pas gagner une course grâce au matériel. Par contre, on peut perdre une course à cause de mauvais choix matériels ou à cause d'un mauvais matériel.
Ok.
Alors, ça, c'est intéressant.
Ça, je veux que tu m'expliques. Normalement, je fais un peu plus chronologique, mais ça, tu vois, c'est un sujet que j'avais noté. Je m'étais dit, mais moi, dans le triathlon, j'étais pas bon en choix matériel, tu vois. Comment est-ce que, du coup, tu faisais tes choix et quels choix pouvaient te faire perdre, justement?
Alors, à haut niveau, donc par exemple, si on prend un week-end de Coupe du Monde, on arrive minimum 3-4 jours avant pour reconnaître le parcours. Et là, il y a vraiment tout un travail d'échange avec son mécanicien. Pour tout ce qui est choix et réglage. Donc choix matériel, c'est en premier temps, on va dire, commencer par les pneus. Il faut choisir le pneu, la section, le type de gomme et la pression.
Okay.
Pour faire court.
Ok, donc déjà, rien que sur les pneus, tu as 4 curseurs.
Okay. Minimum 4 curseurs, voilà. Donc on peut faire des choix aussi... au niveau de prise de risque, parce qu'on sait qu'en VTT, le poids est quelque chose de très important. Le poids des pneus est ultra important, parce que c'est les masses tournantes. Donc on peut choisir, par exemple, de prendre un pneu plus léger, mais dans ce cas, on augmente le risque de crevaison. Donc on prend un risque où on se dit, bon, je vais perdre du temps sur une section, par exemple une section de descente dans les pierres, parce que je vais prendre des pneus plus légers, donc il faut que j'assure la partie-là. Parce que je sais que j'ai des pneus plus légers, mais je vais compenser dans les montées et le gain de poids va me permettre de compenser le temps que je vais perdre en assurant la section technique. Donc faut aussi faire des choix, des stratégies, et élaborer des stratégies, parce qu'on a souvent en fait un choix, un pneu qui est renforcé et un pneu qui ne l'est pas. Donc pneu renforcé, il y a une bande à l'intérieur, un renfort, forcément c'est plus lourd, c'est plus résistant mais c'est plus lourd. Donc le choix c'est est-ce que je prends le pneu, c'est 60 à 80 grammes par pneu.
Ok, donc ouais, t'es à ce niveau-là de précision quoi.
Mais ça se sent vraiment sur...
Bien sûr. Ouais, moi, j'ai pas cette finesse, mais tu vois, je me dis, allez, si toi plus le vélo, ça fait quoi? Ça fait 80, 90 kilos tout compris. Et encore? Non, je sais pas. Je dis des bêtises.
Ça fait 80 kilos tout compris, équipement, tout, oui. Sur...
Donc, tu bah, dis,
c'est,
bon,
c'est vraiment.
Non, 120 grammes, tu vois, ça fait.
Sur les masses tournantes, c'est beaucoup. Également pour le choix de l'accroche. Si on prend un pneu avec plus de crampons, ou voire plus de grippe, que ce soit en montée ou en descente. On peut faire un choix stratégique, de dire bon, bah, je sacrifie, je prends un pneu plus lisse qui va me faire gagner en rendement, mais forcément sur les freinages, je vais être moins performant. Donc ça, c'est tout des choix et c'est toujours des compromis qu'il faut faire. Et essayer de calculer pour faire les meilleurs compromis possibles sur l'ensemble de la course. Donc ça, c'est pour les pneus, mais après... pour les suspensions, même pour le choix du vélo, si on veut aller plus loin, parce que bon, maintenant, la plupart des courses se courent en tout suspendu, donc suspension avant-arrière. Mais à une époque, le hardtail, c'est-à-dire seulement suspension avant et cadre rigide à l'arrière, était encore assez performant. Et là aussi, il fallait faire le calcul. Qu'est-ce que je vais gagner avec un vélo un kilo plus léger sans suspension? Où je vais gagner, où je vais perdre? Et là aussi, c'est de la stratégie.
Ouais. Ouais, c'est hyper complexe cérébralement, quoi. Faut vraiment se poser les bonnes questions, quoi.
Voilà, après, donc il y a aussi quelque chose qui est vraiment super intéressant et passionnant, c'est le réglage des suspensions. Parce que là, il y a des réglages qui sont infinis, parce qu'on joue avec de l'air, avec de la clapeterie. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec les fluides d'huile qui vont faire réagir les suspensions de manière différente. Donc, ça, là, c'est là où le VTT est un sport mécanique, parce que là, il y a vraiment un dialogue. En tant que pilote, il faut être fin dans son analyse, savoir ressentir comment fonctionne le vélo, ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, le communiquer à son technicien.
Que lui le comprenne.
qu'il le comprenne, donc il faut parler le même langage. Enfin, les bons réglages. Ça aussi, ce qui m'a toujours plu dans mon métier, c'est que bah, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier, d'être payé pour gagner des courses. Mais en tant que pilote VTT, on travaille aussi beaucoup avec les marques sur le développement produit. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en gros, ce qui est roulé à l'international par les équipes professionnelles, c'est souvent du matériel qui va se retrouver dans le commerce une ou deux années après. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir même discuter et faire évoluer le matériel avec les ingénieurs des marques. Et puis, c'est un peu la compétition de haut niveau. C'est aussi un laboratoire pour les fabricants de vélos, pour les marques.
Ouais, bien sûr, il y a plein de protos qui sont créés juste pour toi, pour voir si tu as des bonnes sensations dessus.
Voilà, mais ensuite, ça sert pour le grand public, parce que si c'est performant en compétition, bien souvent, c'est performant aussi pour le grand public.
Ouais, ouais, et puis il y a toujours soit un effet de confort, soit un effet de, tu vois, effectivement de performance que tu peux aller apporter au grand public. Ouais. Toi, ça te plaisait cette partie-là, justement ?
Ouais, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Ouais. C'est pour ça que maintenant que j'ai arrêté ma carrière, c'est quelque chose que je continue à faire, développement produit, pour les marques avec lesquelles je travaille actuellement.
Ouais. Ouais, mais on sent cette passion. On sent que t'aimes en parler. On reparlera peut-être un petit peu plus tard justement de la précarrière et tout, mais on sent que t'as envie de transmettre ça, tu vois, cette passion-là. Peut-être, je sais pas si toi c'est ton père qui t'a fait autant aimer cette partie mécanique et tout, mais on sent que ça te. On sent qu'il y a des petites étoiles dans les yeux, tu vois.
Ouais, j'ai toujours été, enfin, depuis mon début de carrière en compétition, été très attentif à tout ce qui pouvait être amélioré pour augmenter la performance. Donc, c'est passé dans un premier temps par la nutrition. Je ne suis pas issu d'une famille de sportifs de haut niveau. Donc, en fait, j'avais pas de repères. J'ai appris par moi-même. J'ai lu des livres. Je me suis renseigné. J'ai commencé à devenir plus pointu dans ce domaine. Et puis, ouais, je me suis intéressé petit à petit à tout, à tout ce que je pouvais mettre en œuvre en dehors de l'entraînement pour améliorer ce qu'on appelle les gains marginaux. Et c'est ça qui fait, c'est le petit plus par-ci, par-là. Et je trouve ça passionnant justement d'aller essayer d'explorer tous les domaines et de tout mettre en œuvre pour tout améliorer. Donc ça, la technique en fait partie, la stratégie, le mental. Quand on parlait sur la semaine de compétition, on fait les choix sur le vélo, et toi, c'est des choix techniques, mais ça va plus loin. Après, avec l'entraîneur, on fait les choix aussi de où est-ce que c'est intéressant d'attaquer ou même de mettre plus de watts, parce qu'en VTT, il y a beaucoup de virages. Et il faut essayer de lisser certains efforts, certaines relances, parce qu'il y a des efforts qui sont plus intéressants au niveau temps que d'autres. Je m'explique si jamais...
Là, tu parles au routard, là, donc il faut que tu m'expliques.
Voilà, ça sert pas à grand-chose de faire un pic de puissance si derrière, on doit freiner. Parce que c'est de l'énergie qui est dépensée pour rien.
Donc toi, tu vas calculer le taux de puissance que tu vas mettre versus le taux de freinage que tu vas mettre. Et tu vas essayer d'opposer les deux directement sur la boucle et de voir à quel moment...
En fait, l'idée, c'est on a un réservoir d'énergie avant le départ de la course. C'est comment j'utilise cette énergie sur une heure et demie pour qu'elle soit la plus efficace et la plus rentable possible.
Okay. Sachant qu'il y a des moments où tu vas être obligé de freiner, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, oui. Il y a des moments où, par exemple, mettre beaucoup de watts sur le plat, ça va être moins rentable que mettre beaucoup de watts en montée. Parce que sur le plat, on va lutter contre la pénétration dans l'air. Et pour gagner, si on a un groupe, on est en chasse sur le groupe de tête. Il y a 10 secondes d'écart. Il y a un bout de plat et ensuite une montée. Vaut mieux être calme sur le plat, récupérer, rester à la même distance. Et boucher le trou dans la montée d'après, parce que ça va être plus rentable pour une dépense d'énergie donnée. Si on met la dépense sur le plat, on va gagner moins de temps que si on met l'énergie dans la montée. Donc ça, il faut segmentariser. Donc on connaît le parcours par cœur, puisqu'on est là pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'un circuit de Coupe du Monde qui fait entre 4 et 6 kilomètres, on l'a fait au moins une dizaine de fois.
Tu le répètes aussi dans ta tête, ce parcours-là ?
Oui, on doit tout connaître par cœur. Ouais.
Ouais, ok.
Au fur et à mesure des années, c'est ça que c'est devenu de plus en plus important. C'est quand j'ai commencé ma carrière, les circuits étaient plus longs.
Ouais, ça a quasiment divisé par deux, non ? C'est passé de 10 à 6 si on devait faire une moyenne.
Oui, avec des grandes boucles et puis aussi des temps de course. J'ai gagné les Jeux d'Athènes en 2h18, les Jeux de Pékin en 2h02.
Ouais, j'ai vu ça,
Et les Jeux de Londres se sont gagnés en 1h30. Et maintenant, le format de course, c'est 1h25, 1h30. Alors quand j'ai commencé, c'était au-delà des 2 heures.
Ouais, donc tu as une réduction de 40% quoi, quasiment.
Oui,
ouais.
Donc maintenant, les circuits 4 km, c'est vrai que les coureurs connaissent vraiment par cœur. Il y a même les premiers pérages se font à pied pour vraiment bien analyser les trajectoires. Donc c'est au millimètre. Ouais.
Ok. Ouais, je vois. Ouais. Donc tu connais tout par cœur.
Et avant, au tout début de ma carrière, c'est ce genre d'analyse sur où je mets la puissance. C'était peut-être un peu moins poussé parce que les montées étaient longues et on avait le temps de faire des écarts. Maintenant, il y a de moins en moins d'écarts de temps.
Ouais, donc c'est technique.
Donc il faut vraiment plus jouer stratégique.
Est-ce qu'il y a eu aussi l'influence de l'évolution du matériel, tu vois ? Parce que si je reviens à Sydney, tu vois, j'ai plus le souvenir du vélo que j'avais à l'époque. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, tu vois. Mais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais j'ai pas le souvenir, tu vois, que est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de capteurs de puissance ? Est-ce qu'il y avait frein à disque aussi ? Donc ouais, tu l'as dit sur la partie des suspensions, il n'y avait pas de double suspension.
Non, c'est ça aussi qui a été super intéressant durant toute ma carrière, c'est que j'ai connu une évolution technologique incroyable. Déjà une évolution au niveau de la réglementation, ouais, qui n'était pas forcément en ma faveur, puisque quand on prend de l'âge, c'est plus facile d'augmenter la distance et diminuer l'intensité que l'inverse. Mais bon, ça s'est fait comme ça, mais ça m'a permis de me remettre en question justement, et sur mes dernières années de carrière aussi de travailler différemment, de relever des défis, parce que le défi c'était de gagner en explosivité, de pouvoir augmenter l'intensité et diminuer la durée d'effort.
Ouais, ce qui arrange pas avec l'âge.
C'était un beau challenge. mais aussi le challenge, et ce qui était super intéressant, c'était de voir l'évolution technologique, d'y participer aussi à cette évolution technologique. Parce que j'ai débuté, première équipe pro, c'était chez Bianchi, j'avais le vélo avec lequel j'ai gagné les Jeux de 2004, c'était un vélo en alu, 80 mm de suspension devant, zéro derrière, des breaks, il était lourd. Et oui, c'était pas un... Si on reprend ce vélo maintenant, d'ailleurs je l'ai toujours ce vélo, et qu'on le compare avec le dernier vélo avec lequel j'ai couru, c'est rien à voir. Donc les freins à disque sont arrivés, les suspensions sont démocratisées, elles fonctionnent de mieux en mieux, on est passé de vélo de 26 tailles de roue de 26 pouces à 29 pouces. Également, ensuite, le vélo avec le plus léger avec lequel j'ai couru, c'est l'Orbea Alma avec lequel j'ai gagné les Jeux de 2008 à Pékin. À cette période, on était focalisé uniquement sur le poids. Ce qui était important, c'était le rapport poids-puissance. Il fallait que le vélo soit le plus léger possible. Et on est revenu là-dessus parce qu'en fait, maintenant, le critère de performance, le poids est un des critères de performance, mais ce n'est pas l'unique. On parle plutôt d'efficience, et dans l'efficience, il y a le poids, mais il y a aussi le fonctionnement, il y a les capacités de franchissement du vélo, etc. Et au final, les vélos ont pris du poids. Maintenant, on est sur des tout suspendus, le BMC actuel, 4-stroke, qui est vraiment une arme de guerre pour la compétition, fait 10 kilos. Et donc, il est plus lourd, mais il marche mieux. Et à cette époque, les vélos étaient exclusifs, c'est-à-dire que les vélos de compétition étaient difficiles à rouler pour le grand public parce qu'il y avait des angles fermés, ils étaient légers mais ultra rigides, pas confortables. Alors que maintenant, les vélos de compétition, tout le monde peut se faire plaisir dessus. Tu feras pas les mêmes choses que les champions, mais tu vas te faire plaisir, c'est des vélos faciles à rouler. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi une bonne évolution. Et maintenant, on prend un vélo de cross-country de compétition et on se fait plaisir même sur des parcours engagés, etc. Mais du coup, ils ont pris du poids parce qu'ils fonctionnent mieux. Et les roues sont plus grandes, etc. Donc c'était intéressant aussi de s'adapter à toute cette évolution technologique. En tant que coureur, j'ai eu la chance de participer à de beaux projets, notamment avec ce que était Shimano sur le développement du DI2, c'est-à-dire du groupe électronique. Des pilotes testeurs pour eux. J'étais l'un des premiers coureurs pilotes à utiliser un monoplateau que j'avais bricolé moi-même avec mon mécano. Les marques y croyaient pas trop, et puis maintenant en compétition, plus personne n'utilise de double plateau, tout le monde est en monoplateau. Et j'avais bricolé le mien, et ça n'existait pas encore dans le commerce.
Attends, mais tu dois refaire tout le groupe, non ? C'était en monoplateau ?
Non, j'avais juste viré le petit plateau.
Ouais.
J'avais mis une butée pour le bloquer, j'avais enlevé le dérailleur, ça permettait de gagner du poids.
Bien sûr, ouais.
Recentrer le plateau pour que la ligne de chaîne soit à peu près correcte
par
rapport à la cassette. C'était comme ce qui se fait actuellement, mais en mode bricolage artisanal.
Ok, d'accord, ouais. Ok.
Et aussi, t'es l'un des premiers ou le premier coureur de cross-country à utiliser une tige de selle télescopique. Ça, c'était dans mes grandes années de duel avec Nino Schurter. Il y a deux saisons d'affilée où il me surpassait techniquement. Et j'ai beaucoup travaillé durant un hiver, notamment pour m'améliorer techniquement. Et puis, j'ai aussi réfléchi à qu'est-ce que je pourrais trouver techniquement pour que mon vélo aussi soit meilleur, plus rapide en descente. Donc, clairement, il fallait que moi, je travaille. J'ai fait beaucoup de descentes avec mon frère. J'ai beaucoup travaillé la technique durant l'hiver, alors que normalement, l'hiver, c'est plutôt une période où on fait du foncier sur route. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas mettre une tige de selle télescopique qui va me permettre de descendre mon centre de gravité en descente. Et l'année suivante, les rôles sont inversés. J'ai mis Nino Schurter en difficulté en descente. Et lui, il avait énormément travaillé le physique en montée, parce que c'était son point faible par rapport à moi. Et donc, on a eu une saison où les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que c'était moi qui attaquais en descente et lui qui attaquait en montée. Mon point fort était devenu à 100 points forts, il est devenu mon point fort, et inversement.
Ok, j'avais pas vu du tout ça sous cet angle. C'est en quelle année, ça, cette...
Ça, c'était 2013, il me semble. 2013, ouais.
Ok. Ouais, donc vous êtes tous les deux au... un super moment, quoi. Bah, pendant que tu mentionnes Nino et tout, alors c'est vrai que peut-être pour les non-spécialistes, vous êtes livré une bataille féroce, on pourrait dire, mais dans le bon sens du terme, parce que vous étiez tous les deux au sommet, vous êtes les deux plus gros palmarès du sport, vous êtes la génération un peu dorée, pour ceux qui connaissent pas vraiment, allez voir, parce qu'il y a de belles images de course. Et c'est vache, c'est, en fait, quand on recherche dans le sport, c'est très rare. Un duel qui dure aussi longtemps et aussi, aussi intense, à un aussi haut niveau, tu vois. Moi, du coup, j'avais une petite question là-dessus, c'est est-ce que maintenant vous êtes amis ? Vous êtes copains ?
Oui, alors, je dirais pas amis, on a vraiment beaucoup de respect mutuel. On est très contents de se croiser, de discuter. On n'est jamais partis en vacances ensemble, hein, mais...
Okay.
On est pas potes, mais en tout cas, grand respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour sa longévité, sa carrière, ce qu'il fait actuellement face aux jeunes qui ont 10 ans de moins que lui. Et ça crédibilise aussi mes propres performances, parce que finalement, je me suis battu avec lui pendant des années. Et lui, il est toujours là. Et il bat les jeunes qui ont 10 ans de moins actuellement. Donc ça veut dire que l'un comme l'autre... On était juste une bonne génération et qu'on avait le niveau. Donc ça, c'est sympa parce que notre duel a commencé en 2009, championnat du monde à Cairns, où il me bat pour la première fois au sprint.
Ouais, attends, il fait pas deuxième en 2008 déjà au jeu ?
Si, mais il m'a pas battu encore.
Ouais, bon, le duel, est déjà là quand même.
Oui, je l'ai pas vu pendant la course.
Ouais, c'est vrai.
Il fait troisième puisque c'est Jean-Christophe Perrault.
Ouais, pardon, excuse-moi, ouais.
Donc, tant qu'il était pas loin derrière, mais qu'il ne me battait pas, ça ne me dérangeait pas. Par contre, l'année suivante, en 2009...
Petit gamin.
Le gamin, il a commencé à me poser un peu plus de problèmes. Il a fait toute la course dans ma roue. C'était un circuit assez roulant, avec exposé au vent. Et j'ai peut-être un peu... J'étais trop confiant en moi-même. Et j'ai roulé notamment aussi parce qu'il y avait une grosse équipe suisse. Ils étaient 4 en tête de course. Donc j'étais coincé au milieu des Suisses. Et là, j'ai pêché par peut-être avec cette confiance. J'ai beaucoup roulé. Il était tout le temps dans ma roue parce que forcément, il y avait d'autres Suisses derrière. Et je ne pensais pas qu'il tiendrait jusqu'au bout. Sauf qu'il a tenu jusqu'au bout. Et puis, il a fait parler pour la première fois ses qualités d'explosivité et de sprinter.
Ouais.
Et il me bat au sprint.
C'est un très beau finish, ouais. Un très très beau finish.
Donc j'avais un peu mauvaise, puisque j'avais fait quasiment toute la course devant.
Tu m'étonnes.
Et...
Oui. Après, ça fait partie du vélo.
Ça fait partie, en fait, voilà. Puis ça a été sa stratégie pendant deux saisons. C'était de rester dans ma roue et de me battre au sprint.
J'allais y venir. Comment tu le ressens ?
Donc là, cette période, c'était un peu tendu, parce que quelquefois j'aurais eu envie qu'il prenne aussi les choses en main. Et puis ensuite, il est devenu numéro 1. Donc, il est devenu leader et le boss de la discipline. Et à partir de ce moment-là, il a pris les responsabilités qui allaient avec. Et il a commencé à se comporter également en patron, on va dire. Et puis là, à partir de là, nos relations ont été très bonnes. Et puis, nos duels ont été que plus beaux, puisque lui, ce qu'il voulait le plus que tout, c'était gagner devant moi. Et moi, ce que je voulais, c'était gagner devant lui. Quand on gagnait et que c'était l'autre deuxième, c'était ça le plus beau parce que ça faisait des beaux duels.
Ouais. Bah, écoute, tu vois, moi, bon, après, c'est peut-être mon délire de créateur de contenu, mais je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire, quoi. Une entrevue 10 ans, 20 ans après, tu vois, de se re-raconter la course et de faire des entretiens croisés. Je pense qu'il y aura des trucs bien à faire. Si jamais ça te dit et que vous voulez le créer, moi, je suis là, si vous voulez. On filme, on produit, on fait tout. Je le finance même, tiens. Allez, mais OK. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que tu aurais été aussi bon s'il avait pas été là ?
Et j'aurais peut-être pas fait une si longue carrière, parce que c'est ça qui m'a motivé. Après quelques années d'ultra domination, entre 2004, 2008 jusqu'à 2009, J'enchaînais les victoires. Et puis, mon unique but, c'était juste gagner. Parce que si je faisais deuxième, j'avais perdu. Et là, ça m'a vraiment remis en question. Ça m'a permis de travailler différemment. Parce qu'il est venu un peu bouleverser les codes. Il m'a imposé une nouvelle manière de courir. Où je ne pouvais plus, comme avant, accélérer progressivement à monter et puis lâcher tout le monde. Parce que si je faisais ça, il restait dans ma roue. Il fallait que je réussisse à attaquer. Il fallait surprendre. Il ne fallait pas faire d'erreur parce qu'il allait en profiter. Donc ça m'a vraiment remis en question et ça m'a fait travailler aussi d'autres choses. Travailler l'explosivité, travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le pilotage. Et tout ça, c'était ultra passionnant parce qu'à l'entraînement, je pensais qu'il y a une chose, c'était... ce que lui faisait bien, ce que moi je faisais moins bien et qu'il fallait que je travaille ça pour pouvoir le battre.
Ouais. Est-ce qu'avec le recul, c'est pas un peu trop d'énergie d'avoir ce duel comme ça, vous êtes tellement à niveau égal, tellement en train de vous batailler, tu vois, on sent que c'est... Lui, il y a des interviews de lui, il dit exactement la même chose de toi, tu vois, qu'il y a une sorte d'obsession de l'autre, tu vois. Est-ce qu'avec le recul, c'est pas trop, en fait?
Non, parce que dans tous les cas, ce qui aurait été trop, c'est jamais bon pour le sport quand il y a une seule personne qui domine son sport. Ça tue. J'ai eu cette période-là. Moi, j'en ai profité. Mais sa venue était bonne aussi pour mon sport. Puis finalement, comme je disais, aussi pour ma remise en question. Cette obsession, elle était bonne pour tout le monde.
Ouais. Ok, mais écoute, en tout cas, c'est cool de mettre des mots sur quelques images que j'ai pu voir. Je trouve que c'est beau, tu vois, ça fait partie du sport et effectivement d'avoir cette passion pour le duel un peu à distance, je trouve ça chouette. À quel point la victoire elle est plus belle, du coup, quand tu reviens, quand tu regagnes face à quelqu'un qui t'a dépassé pendant quelques années?
Ben, il n'y a pas de belle victoire sans belle bataille. C'est vrai qu'entre 2004 et 2008, il y a même... Heureusement que je me suis pris une claque en 2008, d'ailleurs, au championnat du monde, parce que sinon, j'aurais certainement pas gagné les Jeux. C'est-à-dire que dans cette période-là, 2004-2008, j'étais numéro 1 et il fallait... C'est pas j'essayais de gagner, il fallait que je gagne. Si je faisais 2, c'était Absalon a perdu. J'ai gagné une course, je profitais même pas de la victoire parce que je pensais déjà gagner la course d'après. Et jamais ça vous finalement, j'ai gagné 4 titres de champion du monde d'affilée, sans vraiment, à part le premier, sinon les trois autres, je les ai pas savourés, parce qu'à peine le maillot gagné, c'était maintenant, il faut que je travaille, parce qu'il faut que je le garde l'année prochaine. Quand Nino est arrivé, commencé à me battre, ça m'a déchargé aussi de ce poids d'ultra favori. Quand je suis arrivé aux Jeux d'Athènes, aux Jeux de Pékin en 2008, la pression, elle était monstrueuse parce que une médaille d'argent aurait été une défaite. Donc il y a aucune autre solution que de gagner, sinon c'est perdu. Alors que quand on est outsider, on peut être content d'avoir fait deuxième si on a fait une belle course.
Bien sûr. Ouais, une médaille.
Et j'ai retrouvé ça par la suite. Et après, aussi le fait qu'Andino a commencé à me dépasser, c'est plus facile d'être chasseur. Que chasser, et puis ça enlève de la pression. Ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment savouré les victoires. Le titre de champion du monde que j'ai le plus savouré, c'est lorsque je gagne en 2014 en Norvège, parce que ça faisait longtemps que je courais après le titre de champion du monde. C'est le dernier remonté à 2008. À 2000, non, 2008, j'ai pas gagné. Alors, remonter un petit peu, et là, d'avoir gagné à 30, en plus à 34 ans, après un super duel face à Nino, là, j'ai vraiment savouré ce titre. Et je parlais tout à l'heure de claque, justement, dans cette période. Donc, je suis arrivé au championnat du monde 2008, que je n'ai pas gagné, en Italie, où la pression était monstrueuse. J'avais perdu l'envie parce que les Jeux approchaient. C'était la semaine du championnat du monde. J'étais tombé à l'entraînement, j'avais mal au genou, j'étais pas super. Je sentais que j'étais pas dans une bonne dynamique, mais il fallait que je gagne. Je savais que c'était très compliqué parce que je sentais que j'étais pas au top. Et là, je suis rentré dans une mauvaise spirale négative où la pression a pris vraiment le pas sur l'envie. J'étais obligé et je savais que c'était difficile. Et là, je me suis pris une grosse claque, En plus, bon, le jour-là, rien n'a fonctionné comme prévu. Et donc, j'ai un mal au genou. Il y a un problème sur mon vélo. Donc, à chaque fois que je passe en zone technique, je parlais à mon mécano, mais j'ai oublié de prendre à boire. Donc, il y a un moment, ce qui devait arriver, arriva. Mon champ de vision qui s'est rétréci. Et dans une côte, en fait, j'allais tellement doucement que je me suis effondré sur le côté. J'ai repoussé le vélo.
La bonne crise d'hypo, quoi.
Ah là, mais complet.
c'est dingue que ça arrive, tu vois.
J'ai même pas pu finir. Champion, quoi. Que j'ai repoussé le vélo jusqu'au sommet de la côte. J'ai fait de la roue libre dans la descente suivante. Et la côte suivante, c'était impossible de la monter. Donc je suis rentré, j'ai pas pu finir. Et même, j'ai fait une autre refus d'obstacle, on va dire. Après la course, j'étais tellement déçu que je dis à l'entraîneur national... Ah, je rentre en vélo à l'hôtel. Et c'était la piste cyclable, sauf la partie finale pour aller à l'hôtel, il y avait une montée. Et quand j'ai vu la montée, je me suis assis au pied de la montée et j'ai attendu la voiture 2 heures. Il y avait 400 mètres de montée. J'ai attendu 2 heures que la voiture arrive. Je ne pouvais plus du tout. Mais cette grosse claque m'a vraiment remis en question. Avec mon entraîneur, on a fait un gros point. Et du coup, on était à 4 semaines des Jeux. J'ai fait 5 jours de repos, à 4 semaines des Jeux, pour vraiment faire un reset. Et je suis reparti sur la préparation finale et j'ai gagné les Jeux 4 semaines après. Mais sans cette contre-performance, je pense que je serais pas, peut-être pas double champion olympique. Donc j'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup justement de grandes défaites comme celle-là. Et ça fait du bien de temps en temps de se prendre une bonne claque pour se remettre dans le droit chemin.
Ouais, j'imagine. Il y a eu d'autres claques comme celle-ci qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait progresser.
Celle-là, c'était la plus grande, mais...
C'est vrai qu'elle est déjà pas mal, tu vois. Tu termines pas une course, t'arrives pas à faire 400 mètres de côte, c'est difficile à croire. Mais à quoi tu penses à ce moment-là, d'ailleurs ? T'es à 4 semaines des Jeux, t'es champion olympique, champion du monde en titre, t'es l'homme à abattre.
Bah, ça m'a enlevé la pression parce que... Cette contre-performance a démontré que j'étais pas imbattable.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Et il m'a enlevé un petit peu. J'ai quand même abordé Pékin en tant qu'ultra favori, mais en disant bah, il n'est peut-être pas l'unique favori, il est battable, et ça m'a enlevé de la pression.
Ouais, ok. Ouais, toi, ça te rajoutait beaucoup de pression d'avoir ce statut de favori ?
Oui, et c'est ce qui m'a. Alors, pas forcément la pression, parce que la pression, elle ne me dérangeait pas plus que ça, c'était plutôt cette obligation de résultat. Qui était pesante. C'était moi avant tout hein, qui me mettait ça. Et je me suis dit, c'est une course. C'est-à-dire qu'avant chaque course, on est sur une ligne de départ et tout le monde peut gagner. Et si je ne gagne pas à chaque fois, on ne m'en voudra pas. C'est le sport qui fait que, heureusement, je ne peux pas gagner à chaque fois.
Ouais. Peut-être pour clore un peu sur ce sujet-là, est-ce que c'est la chose, le duel comme ça un peu, et cette adrénaline de la première place, cette adrénaline de un peu de l'or, est-ce que c'est ce qui manque le plus qu'on arrête sa carrière après ?
Je pense après... Alors, j'ai arrêté ma carrière en mai 2018. J'étais content en fait, de trouver le moment. J'avais peur avant ça. Avant de prendre la décision, de regretter d'arrêter trop tôt ou trop tard. Alors trop tôt, d'arrêter puis de dire ah, mince, j'aurais bien continué quand même. Ou d'arrêter trop tard, c'est-à-dire que faire l'année de trop. Les coureurs qui descendent dans le classement, quand on a gagné des grandes courses, c'est moche quand même de plus être compétitif sur la fin de carrière. Donc, je voulais arrêter en étant encore compétitif, encore performant. Après, les circonstances qui m'ont fait arrêter, on aurait pu prendre ça comme de la malchance, mais je n'ai pas pris comme de la malchance. C'est-à-dire que mes allergies se sont aggravées. Des allergies au pollen, qui sont dus au sport d'endurance de haut niveau. C'est pendant des années, j'ai ultra sursollicité mes bronches en extérieur. Et au final, je les ai fragilisés.
Dans la poussière.
Mais j'ai pris, aussi. Oui, mais j'ai pris ça pas comme une fatalité, mais comme un signe. J'ai dit, voilà, j'ai tiré sur l'organisme pendant des années. Là, il faut juste écouter les signaux de mon corps qui me dit que peut-être qu'il est temps d'arrêter. J'ai pris ça comme ça, mais de manière positive. J'étais à dire, oh, c'est un coup, oh, fait chier. J'ai pas de chance. Ben non, j'ai relativement été épargné durant ma carrière. J'ai pas eu beaucoup de blessures. Et j'ai pris ça juste comme un signe et puis comme qu'il était temps. Donc, ça a pu paraître étrange d'arrêter en cours de saison, alors que je venais lancer mon équipe dans laquelle j'étais coureur. Mais moi, j'ai pris ça comme juste... voilà. J'ai pris ma décision en 10 minutes. J'étais en Allemagne. Jusqu'à là, j'étais allergique surtout au pollen du bassin méditerranéen. Donc, en début de saison, lorsqu'on faisait les courses en Espagne, Italie, sud de la France... Et là, on était au fin fond de l'Allemagne. Et là, je dis, si même là, je suis allergique au pollen à l'effort, c'est qu'il y a un truc. Donc, j'ai arrêté la course et quand je suis rentré...
Tu pouvais pas prendre d'antihistaminique, ce genre de...
J'avais un traitement, mais ça aussi, ça m'embêtait, en fait. Je dis, si pour faire de la... Pour continuer mon sport, je suis obligé de prendre des médicaments. Ça m'embêtait de devoir prendre un traitement pharmaceutique, même autorisé bien sûr, mais de prendre des médicaments pour compenser ça, ça m'embêtait vraiment. Donc en fait,
après il y a des trucs, je crois que tu peux te faire désensibiliser.
Alors, j'ai essayé, mais ça n'a pas, parce que le problème, alors c'est aussi compliqué de trouver un allergologue parce que la première fois que j'ai fait des tests de capacité respiratoire, j'avais 100% de capacité respiratoire, sauf que normalement j'ai 180%. De capacité respiratoire. Et il a fallu faire comprendre à l'allergologue, oui, je ne suis pas malade, j'ai 100% pour la vie de tous les jours, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce qu'il faut, c'est mes 180% de départ. Quand je suis à 100% de capacité respiratoire par rapport à la norme, je suis handicapé parce que d'origine, j'ai 180. Et quand je fais du sport, de la compétition, j'ai besoin de mes 180% de débit respiratoire. Donc, je n'étais pas malade, parce que dans la vie de tous les jours, là, d'ailleurs actuellement, ça me pose plus de problèmes, ces problèmes d'allergie. Parce que c'était de forcer aussi sur les bronches.
C'était pendant la course, tu te mettais à pleurer
Les bronches, en fait. Ça entraîne une inflammation chronique des bronches, c'est-à-dire que respirer ultra-ventilé, ça irrite les bronches. Et si on le fait, lorsque je le faisais tous les jours, et de manière vraiment ultra-intense, ça a développé une inflammation chronique, puisque les bronches n'avaient pas le temps de cicatriser, que je remettais une couche, et puis rentrer dans un cercle où c'était inflammé tout le temps. Actuellement, si je fais un effort très violent, un peu prolongé, je vais sentir un peu, mais si ensuite je reste un ou deux jours sans tirer sur la machine, ça va passer.
Okay. Il y a d'autres sportifs de haut niveau?
Énormément, en fait, dans les sports d'endurance, c'est quelque chose qui est assez courant.
Je sais qu'il y a des problèmes respiratoires post-carrière, tu vois, pour avoir rencontré nombreux d'entre vous. Mais j'avais jamais creusé autant le sujet qu'on est en train de le faire maintenant. Ouais.
Après, j'ai aussi réfléchi et je me suis dit, le sport de haut niveau, c'est clair que c'est pas forcément bon pour la santé, en fait. Le sport est bon pour la santé, mais pratiquer à ces niveaux d'intensité, à ces fréquences, c'est pas forcément bon, donc c'est ça aussi.
Le taux de cortisol, il est absolument énorme dans le sang, enfin tu vois.
Voilà, donc
c'est même tous les jours, tu vois. Moi je m'entraîne, tu vois, je cours trois fois par semaine, je fais deux séances de musculation, une séance de vélo, une séance de natation par semaine. J'ai un taux de cortisol, mon médecin a halluciné. Il m'a dit, mais non, mais faut pas s'entraîner tous les jours. Ça, c'est pas bon, quoi. Et pourtant, je le fais à petite dose, tu vois. Je fais une heure, j'ai ma vie de famille et ma boîte à faire tourner, mais. Donc je suis pas à ton niveau du tout, quoi. Mais je suis d'accord, c'est pas hyper bon, quoi. Mais donc c'est fréquent de parmi les cyclistes.
Oui, c'est fréquent dans les sports d'endurance, encore plus dans le ski de fond, parce que le froid est très très irritant pour les bronches.
Ok, ça marche.
C'est pour ça qu'il y a en ski de fond, en dessous d'une certaine température, ils doivent pas, la compétition est annulée.
Ok, ça marche. Moi, je rencontre un fondeur bientôt. Je dirais pas qui c'est, mais tu te doutes sans doute peut-être. Je demanderai s'il voit ça aussi, enfin il constate ça, ouais.
Donc tu parlais avant ça.
Dis-moi.
Du manque
de cette sensation.
De cette sensation. Au début, je ne pensais pas être accro à ça. Et j'ai découvert que oui, après l'arrêt de ma carrière, ce qui m'a le plus manqué, c'est pas de plus participer aux courses. Parce qu'en plus, vu que je suis devenu manager de l'équipe, je suis vraiment resté dans le milieu. Et donc, tous les week-ends, je voyais mes ex-concurrents sur le vélo. Et j'ai jamais eu envie de... Je me suis jamais dit, oh, je serais bien quand même dans la course, là. Je participerais plus rien, parce que je savais que j'avais tourné la page. J'étais plus... Mais j'ai décidé d'arrêter. Du moment où j'ai décidé d'arrêter, je me suis plus considéré comme athlète, mais comme sportif. Donc, fini les intervalles training, fini juste rouler parce que j'aime ça, parce que j'en ai aussi besoin, parce que c'est... Il y a toujours ce manque, ce besoin de se dépenser, d'avoir sa dose, quoi. Mais par contre, oui, ce qui manque et ce qui n'est pas remplaçable, c'est la sensation de gagner une course. Ce qu'on ressent lorsqu'on franchit une ligne d'arrivée d'une grande course, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment puissant. J'ai jamais goûté aux drogues, mais je pense que c'est addictif comme peut être des drogues assez fortes.
Bah, tout shot de dopamine ou de sérotonine, forcément, on a envie d'y retourner, quoi. Peu importe d'où il vient, tu vois.
Tant que j'étais dedans, dans l'activité, je ne me rendais pas compte que je tournais aussi à ça, c'est-à-dire que ce qui me poussait aussi à l'entraînement, c'était de gagner des courses pour avoir renouer avec ces sensations et avoir ces shoots de dopamine.
Ouais. Ouais, mais j'en doute pas. Et en plus, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu j'ai lu une étude là récemment qui fait à la fois sur des sportifs amateurs et des sportifs pros. Et en fait, le shoot de dopamine, il est quasiment aussi élevé que un amateur qui va gagner son match de foot du dimanche, tu vois, avec ses copains, ou qui va gagner le cross du collège, tu vois, il est quasiment aussi élevé. Le truc, c'est que chez les athlètes de haut niveau, le niveau hormonal, en fait, il est beaucoup plus dur à faire monter, quoi, tu vois. C'est-à-dire que l'amateur, il peut très facilement avoir son shoot de dopamine. Les athlètes de haut niveau, ils ont besoin d'un truc encore plus fort pour que ça monte. Parce que si tu gagnes la compète de quartier, t'as rien, quoi. T'as besoin de... Et c'est aussi lié au cortisol que vous avez, parce que, enfin, cortisol, le taux de cortisol qu'on a dans le sang, qui est très élevé, quoi. Pour le contrebalancer, il faut encore plus de dopamine, quoi, tu vois. Donc, si ça t'intéresse, je t'enverrai ça.
Ouais, volontiers.
Pourquoi avoir voulu envie de créer ton équipe ?
J'ai décidé d'arrêter ma carrière donc pour ces raisons-là, parce que j'avais l'âge, parce que j'ai senti les signes, mais j'aimais toujours le milieu de la compétition. Et j'avais envie de rester dedans. Déjà, j'ai créé l'équipe en 2017, donc pour poursuivre ma carrière. J'avais prévu d'arrêter ma carrière en 2017. Je me suis fracturé la clavicule et je ne voulais pas rester sur une saison comme ça où je n'avais pas couru un quart de saison. Et puis, j'avais envie de poursuivre, mais de manière différente, avec les partenaires que j'avais choisis. Et donc ça m'a plu. Et ce qui m'a plu aussi, c'est j'avais un jeune avec moi et je me suis rendu compte que je commençais à m'ouvrir. Pendant des années, j'ai été focalisé sur moi-même parce qu'un sportif de haut niveau, il est auto-centré et il doit être concentré, ouais, penser qu'à lui et à sa performance. Et là, je suis découvert d'avoir envie de transmettre ce que j'avais moi. Transmettre mon expérience, avoir envie de donner. Et donc ça m'a plu. Donc quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis aussi rendu compte en 2018 que c'était pas facile d'être à la fois athlète et à la fois manager.
Bien sûr.
Et que le rôle de manager me plaisait beaucoup aussi.
C'est quoi le rôle de manager ? Tu peux l'expliquer un peu ?
Alors ce rôle, mon rôle c'était déjà de constituer l'équipe. Donc, travailler en amont, c'est-à-dire déjà trouver l'argent, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est pour avoir une équipe, il faut avoir de l'argent, donc il faut trouver des sponsors, monter un projet, le vendre à des partenaires qui vont soutenir le projet,
okay.
Et ensuite tout organiser pour mettre les coureurs dans les bonnes conditions. Et le rôle de manager qui me plaisait le plus, c'est le rôle de manager sur le terrain, c'est-à-dire là, partager avec les athlètes, les accompagner sur le terrain, les conseiller dans leurs choix, dans leur stratégie de course, etc. Donc cette partie-là comme me plaisait de plus en plus. Donc tout naturellement, dès que j'ai arrêté, je me suis focalisé à 100% sur là-dessus. Et puis l'équipe qui était à la base une toute petite équipe qui permettait de me faire courir moi et un autre jeune, je l'ai fait grandir pour d'année en année, jusqu'à l'année dernière où l'équipe a terminé meilleure équipe mondiale masculine. Donc parmi les toutes meilleures équipes d'équipe mondiale.
Ok. Et comment ça se termine? J'ai lu, dis-moi si c'est indiscret et trop business, mais tu vois, j'ai lu dans la presse du coup un rachat de l'équipe. Donc je me dis, est-ce que du coup l'équipe c'est une entreprise avec qui a un asset financier ou un asset d'une manière ou d'une autre qui peut se racheter quoi? Ça change de nom?
Alors oui et non, c'est-à-dire que l'équipe appartenait à ma société, donc c'était ma société qui gérait l'équipe. Donc j'étais manager et propriétaire à 100% de l'équipe.
Et les partenaires financiers sont même pas des actionnaires, ils sont juste des sponsors.
Oui, contributeurs, même voilà. L'équipe s'appelait, la dernière année, l'équipe s'appelait BMC Mountain Bike Racing, mais l'équipe appartenait à ma société, dont je suis gérant unique. L'équipe a grandi, et à un moment, l'année dernière, je me suis rendu compte que ça devenait quand même compliqué de se battre contre des équipes de marques qui appartenaient aux marques, c'est-à-dire d'autres équipes qui appartiennent en direct aux fabricants de vélos notamment. Parce que moi, en tant qu'individuel, je n'ai pas de la flexibilité financière. Moi, je constituais un budget en début d'année, et en cas de mauvaise surprise, tant pis pour moi. Ou si une opportunité se présentait, j'avais pas de flexibilité de trouver un extra budget pour acheter un coureur ou pour faire quelque chose de non budgétisé à la base. Et puis, je suis content que l'équipe ait grandi parce que c'était une belle aventure, mais à un moment, ça devenait aussi passer plus de temps à être patron qu'à être manager sur le terrain. C'est-à-dire que je suis un peu perdu de terrain, et ce qui me plaisait dans les premières années, c'était vraiment la proximité avec les coureurs, de pouvoir aller avec eux sur les parcours, de les conseiller, vraiment le terrain. Et ensuite, plus de grands coureurs, plus de personnel, plus de staff à gérer. Donc ça voulait dire plus de temps sur la partie administrative, gestion, management, et moins de temps réellement sur le terrain avec les coureurs, ce qui me plaisait le plus. Voilà, et puis plein de choses qui ont fait aussi l'année dernière, on avait quand même compliqué à gérer, puisque bon, pas assez le cacher, mais mon ex-compagne était dans l'équipe, donc il a fallu gérer ça. Et puis 20 années en tant que coureur, 5 années en tant que manager, un peu aussi, c'était peut-être le temps aussi de découvrir un peu autre chose. Donc tout ça a fait que... Et puis avec BMC, je suis toujours en très très bon terme. Donc on a réfléchi aux différentes options qu'on avait. Eux, ils voulaient continuer à investir plus. Donc tout naturellement, en fait, ils ont repris en direct la gestion de l'équipe. Donc il y a une transmission, on va dire, de l'équipe de ma société vers en direct BMC. Donc maintenant, l'équipe BMC est suisse. Elle était française avant, l'équipe TT, puisque ma société est française. Et maintenant, elle est gérée en direct par la marque BMC Suisse, marque avec laquelle j'ai signé un contrat d'ambassadeur, avec laquelle je compte toujours des liens très très étroits, et puis notamment aussi pour conseiller la marque pour le management de l'équipe, puisque c'est quand même aussi... Il y a un petit pincement au cœur, mais ce que je voulais, c'est qu'il y ait une vraie transmission et que ce que j'ai créé perdure, que l'esprit Absolute Absalon, l'esprit perdure, même si c'est plus moi le propriétaire de l'équipe. J'ai toujours un œil très attentif à ce qui se passe et comment ça se déroule dans l'équipe.
Oui, t'as donné le bébé, mais t'as envie de voir comment il grandit, c'est sûr.
Voilà, c'est ça.
Ok, enfin, très belle aventure en tout cas.
Ouais, voilà, puis maintenant j'ai vraiment ravi de... découvrir autre chose, de travailler avec des marques avec lesquelles j'ai vraiment envie de travailler, mais sur d'autres projets un peu moins centrés sur la compétition, mais plus sur le développement produit, sur l'image, sur d'autres choses. Et puis L'idée aussi, c'était de me dégager un peu plus de temps parce que, en tant que coureur, j'étais parti de la maison 200 jours par an. En tant que manager, 220 jours, puisqu'au final, lorsqu'il y avait deux fronts, moi je devais être sur les deux fronts. C'est-à-dire des coureurs qui faisaient une course en week-end, d'autres non. En tant que coureur, je prenais toujours l'avion quand c'était plus rapide. Mais en tant que manager, s'il y avait un véhicule à conduire, c'était moi qui devais conduire le véhicule. Donc je partais avant les coureurs, je rentrais après. Donc là, l'idée, c'est d'avoir aussi plus de temps pour me lancer aussi de nouveaux défis sportifs. Enfin, je parle de défis, hein, pas de performance. J'ai découvert le triathlon, j'ai découvert le trail longue distance, la moto. Toujours en tant que sportif outdoor, je suis fan de tous les sports outdoor et de toutes les disciplines. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir le temps de goûter à tout, découvrir aussi d'autres univers, parce que là aussi, j'ai besoin de plus m'ouvrir. Je connais très très bien ce monde, le monde du VTT. Je connais par cœur le monde de la compétition VTT. Mais aller voir un peu ce qui se fait dans le monde du trail, dans le monde du triathlon.
Du gravel.
Du gravel, de la moto. C'est super intéressant.
Ok. Bah, tu peux nous dire un petit peu les petits défis que tu as fait du coup, cette dernière année ? Vas-y, je te laisse.
Donc, défi, donc en fin d'année dernière, j'ai participé à la 03000, qui est un triathlon vertical. Bon, malheureusement, le triathlon s'est transformé en duathlon. C'était pour m'arranger d'un point de vue performance, mais l'idée, c'était vraiment de partir au premier triathlon. Donc, il faudra que je réitère l'expérience pour vraiment participer à un triathlon. Parce que je me débrouille bien en course à pied, plutôt pas mal. En vélo, bon, il n'y a pas trop de problèmes, mais je ne suis pas un grand nageur. Donc, mais c'était pour moi un défi de nager, surtout que, comme j'étais prévenu assez tardivement, je me suis dit, ça ne sert à rien de m'entraîner en natation. De toute façon, je ne vais pas gagner grand-chose à faire quelques entraînements en natation. Je vais m'entraîner en course à pied, c'est là qu'elle peut se gagner. Donc en gros, il fallait survivre dans l'eau et après remonter des places.
Ouais, comme beaucoup de coureurs ou de cyclistes font. Ouais. On lésine un peu sur la natation. Ouais. Mais c'est le plus dur aussi.
Mais ce triathlon est tellement dur parce que c'est un triathlon vertical. Donc le principe, c'est nage dans la mer, dans le lagon de Saint-Pierre à La Réunion. Ensuite, le vélo, je ne sais plus combien de kilomètres, 75 je crois, mais avec 1500 mètres de dénivelé positif. Non, 2000 mètres de dénivelé positif, parce qu'on pose le vélo à 1500, mais on a une petite descente. Et ensuite, 2005, 10 km de course à pied, arrivé à 3070 mètres. Donc c'est quasiment impossible de courir tellement c'est raide, arrivé au sommet du Piton des Neiges. Et là, il y a des écarts monstrueux qui peuvent se faire. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que je suis plus athlète, mais quand je suis en compétition, bon, en fait, je vais me donner à 100% avec les capacités du jour. Et en vélo, j'arrive plus à me faire mal, parce que je sais que même si je me fais mal, j'irai moins vite que ce que je pouvais aller avant. Par contre, en course à pied, j'y arrive vraiment, parce qu'en course à pied, je progresse. J'ai intégré la course à pied dans mon programme d'entraînement d'athlète dans mes trois dernières années de carrière. L'idée, c'était de gagner en explosivité. Pour ça, je faisais de la pilométrie, mais faire de la course à pied permettait aussi de maintenir ce travail. Gagner en explosivité, aussi d'augmenter le volume horaire. Donc, je faisais 2 à 3 sorties à jeun le matin.
OK.
Par semaine.
Ouais.
De 35-45 minutes environ.
Vélo ou course à pied.
Course à pied. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai plus couru parce que plusieurs choses, parce que ça me donnait ma dose plus rapidement.
Ah, on y vient.
Et parce que
c'est vrai que tu montes plus.
Point de vue pratique, à cette époque-là, quand je gérais le team, j'avais moins de temps. Donc la course à pied, c'est super facile. Et on met des baskets, un short, un t-shirt, on part, on rentre, c'est fini. Le vélo, c'est plus de logistique. Puis vélo, on sort pas pour une heure. En course à pied, on fait une heure, 1h15, on a déjà un bon entraînement. En vélo, on fait rien en 1h15. Oui. Donc, autre chose, c'est que du coup, en course à pied, j'ai commencé à progresser. Alors qu'en vélo, quoi que je fasse maintenant, je n'atteindrai plus jamais le niveau de carrière. Donc voilà, puis j'aime ça, mais surtout en trail, en tout terrain. Ben, je suis toujours que ce soit en tout terrain, parce que quand je cours sur route, je trouve ça long. Alors qu'en tout terrain, je vois pas le temps passer. Je trouve les sensations aussi un peu du VTT en descente, le placement des pieds, les trajectoires. J'aime beaucoup ça. Du coup, j'ai participé à ce triathlon vertical. Et oui, je me suis vraiment régalé dans la partie finale à pied. Je termine 5 ou 6, je crois. Donc voilà, après ça, j'ai participé à un trail il n'y a pas très longtemps dans les Cévennes. Un 63 km, donc c'est un premier trail longue distance. J'y suis allé un petit peu à la fleur au fusil parce que j'ai fait 4 trails dans ma vie. 2 de 12 km et 2 de 24. Et là, je me suis dit, voilà, quitte à faire, il y a plusieurs distances, il y a 42, 63, bah, je vais faire 63. Et j'avais jamais fait plus de 32 km en course à pied. Et je me suis régalé, mais à partir du 45e km, au niveau musculaire, c'était quand même très compliqué. Mais je fais 9e sur 700 participants. Donc, voilà. 63 km avec 2007 de dénivelé, 6h44, quelque chose comme ça. Donc je me suis régalé, puis j'ai découvert ce monde du trail. Sur les autres trails que j'avais fait, c'était des trails de moins grande importance. Là, c'est la Seven Trail, c'est une belle organisation. Puis rencontrer des champions de la discipline et découvrir ce monde qui est très, très intéressant.
Ouais. Très proche du VTT, qu'est-ce qui est différent?
Alors, j'ai l'impression que c'est un peu le monde du VTT d'il y a quelques années. C'est en train de se professionnaliser, mais il y a encore l'esprit super bon enfant qu'il pouvait y avoir avant. Parce que plus un sport se professionnalise, plus on perd quand même l'esprit bon enfant, l'esprit de départ, quoi, forcément. Parce qu'on va dans la recherche de la performance. Quand les sponsors arrivent, que l'argent arrive, on ne peut pas garder les mêmes l'esprit originel. Quoi. Et là, on voit que le trail, c'est à le vent en poupe, ça intéresse des sponsors, des athlètes qui commencent à pouvoir en vivre. Donc, ça se professionnalise.
Ouais. Ouais, puis c'est aussi bien pour le sport, quoi. Il y a des bons côtés, des moins bons.
Et puis, là, c'est peut-être aussi par rapport à mon enfance, mais j'ai toujours été fan de moto.
Ouais, j'ai vu quelques photos sur Instagram.
Voilà, je communique un peu moins sur la moto parce que les gens qui me suivent sont plus sport outdoor nature. Mais donc j'étais dans le sport mécanique, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant enfant. J'ai acheté ma première moto à 18 ans. Petite histoire, j'étais en avion assis à côté de Fabien Barrel, qui est un champion de descente. On était junior, on partait au championnat du monde au Canada. Et dans l'avion, on se dit, si on gagne, on s'achète une moto. Il a gagné le championnat du monde junior en descente. J'ai gagné le championnat du monde junior en cross-country. À mon retour, j'ai acheté une moto. Et une moto d'enduro. Une moto de cross d'abord. Et j'en ai fait jusqu'en 2004. Et en 2004, l'année des Jeux, je suis tombé. Je me suis fait un hématome à la cuisse. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible de se blesser en moto. J'ai revendu ma moto. J'ai plus jamais touché une moto jusqu'à la fin de ma carrière. Et quand j'ai arrêté ma carrière, c'est une des premières choses que j'ai fait.
Okay.
J'ai racheté une moto.
T'étais autorisé?
Alors, j'avais pas de contrat de restriction dans mes contrats.
Ok. Mais.
C'est vrai que le VTT, c'est un sport à risque, entre guillemets. Et pratiquer des sports à risque, bon, bah, ça aide aussi, ça participe. Par exemple, je sais que le ski de descente, c'est un sport qui est considéré comme dangereux. Il y a beaucoup de sportifs, notamment tennisman. J'ai eu l'occasion de discuter par exemple avec Camille Mauresmo, qui adore le ski et qui m'a dit. Bah, elle était frustrée durant sa carrière de ne pas pouvoir skier parce qu'elle n'avait pas le droit. Mais en VTT, le ski de descente, tout ce qu'on travaille en ski de descente, on peut le transposer dans notre sport. Donc c'est sûr qu'il y a une prise de risque importante. Si on se blesse en ski, ça la fout mal. Mais d'un autre côté, bah, le travail de force, le travail de trajectoire, de glisse, on peut le transposer en VTT. Donc j'ai jamais eu de restrictions dans mes contrats, mais je me le suis imposé moi-même. Parce que voilà, j'aurais pas voulu me blesser durant ma carrière en motocross. Quoi.
Ouais, ok. Mais t'aurais pu, si tu t'écoutais, t'aurais pu faire des petites bêtises. Quoi.
Voilà, donc je me suis interdit et de 2004 à 2018, j'ai pas touché une moto. Et maintenant j'en profite.
Sur de l'enduro, tu te vois faire je sais pas, une course. C'est quoi les. J'y m'y connais moins. Mais c'est quoi? C'est les Sables d'Olonne, non? Où il y a une grosse.
Touquet. Ouais. Alors le Sable, c'est pas trop forcément mon truc. Mais j'ai participé le week-end dernier au, je sais pas, de France Enduro.
Ok. Ah,
Okay. Bien régalé. Premier, j'avais dit que je ferais jamais de course en vétéran parce que c'est pire que en VTT, c'est master, mais là en moto c'est vétéran. Là, c'est terrible, ça tue.
Le mot est dit,
le
quoi.
Mot est, ouais. Je fais quatrième en vétéran.
Et sur combien?
Je suis 62e sur 350 au général et quatrième dans ma catégorie.
Ah, c'est belle quand même, au pied du podium, mais ça titille, non? Quatrième, ça doit pas te.
Oh non. Progresse encore. Là aussi, c'est ce que je dis. Là où je me régale dans toutes ces nouvelles activités, c'est justement de pouvoir progresser, d'apprendre. Arriver dans un milieu que je ne connais pas, d'apprendre le milieu, de prendre des conseils auprès des experts du milieu et de progresser. Et en moto, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la partie physique. Donc, c'est là-dessus que moi, je tire mon épingle du jeu. Il y a des courses qui sont des courses d'endurance. Il y a quelques semaines, j'ai fait une course d'endurance. Donc, le principe, c'est un déparlement sur un circuit de 10 à 13 km environ, et on tombe en 2 heures. Donc là, il y en a beaucoup qui sont plus forts techniquement, mais qui, au bout d'une heure, une heure et demie, se fatiguent. Et là, j'utilise mes qualités d'endurance en fait, pour tirer mon épingle du jeu. Mais l'idée, c'est justement d'apprendre des gestes techniques, tout ce que j'ai fait en VTT durant toute ma carrière. Sauf que quand on est dans l'ultra haut niveau, après, on joue sur des tout petits détails, parce que tout le monde maîtrise à haut niveau, tout le monde maîtrise correctement, mais après on va dans l'ultra maîtrise. Et là, quand on démarre, plus on démarre bas, plus on fait des progrès rapides, puisque il faut déjà même apprendre carrément les bases. Et c'est super intéressant d'avoir une progression rapide, ce que j'ai jamais connu dans mes dernières années de carrière, puisque c'était justement des gains infimes, qu'il fallait des gestes, des choses à répéter pour gagner des millièmes. Alors que là, sur les sports nouveaux, c'est pas des millièmes, c'est des secondes, des minutes.
Ouais, tout de suite, ouais. Mais il y a un côté, ouais, je suis comme toi, moi j'adore redevenir débutant dans ma vie, tu vois. J'en ai besoin en permanence, tu vois, d'apprendre une nouvelle discipline où je travaille un peu cette capacité à apprendre, cette capacité à redémarrer de zéro. Moi, c'est ma drogue à moi, je crois, tu vois. Donc, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Et peut-être que si moi, d'ailleurs, j'ai abandonné dans le tennis plus jeune, c'est justement peut-être que j'avais trop de répétitions et pas assez de kiff, tu vois, pas assez de nouveaux apprentissages. Comme je peux l'avoir maintenant, quoi. Donc, et c'est pour ça que j'adore monter des boîtes, parce que t'apprends toujours, quand tu crées une entreprise, t'apprends tous les jours quelque chose de nouveau, je trouve. Donc c'est très chouette.
Après, ce qui a été dur, pour rebondir sur ce sujet, c'est à l'arrêt de carrière. On parlait tout à l'heure du manque donc de dopamine, lié à l'émotion des victoires. Ce qui a été dur aussi, c'est de ne plus être le meilleur. Justement, donc, j'ai créé ma société pour gérer l'équipe. Et apprendre, c'est intéressant, mais après, il a fallu aussi apprendre à être débutant, apprendre à ne pas être le meilleur, à faire quelque chose, bon, à faire de la comptabilité administrative, à faire des fautes, à ne pas être bon, ou à pas être le meilleur, alors que pendant des années, qu'une chose, c'est travailler pour être le meilleur.
Ouais. Et tu es entouré des meilleurs.
Oui.
Tu avais le meilleur entraîneur, le meilleur...
Et là aussi, c'est une vraie remise en question et un vrai travail mental pour dire oui, ben... C'est normal, quand on débute quelque chose, on ne peut pas être tout de suite bon, très bon. Il faut prendre des conseils, puis il faut progresser, puis il faut faire des erreurs pour progresser. Mais au début, c'est assez dur quand même, quand on a vécu toujours de la même manière.
Ouais, bien sûr. Je vois que l'heure tourne, il est 56. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps tu as. Donc, moi, je pourrais continuer pendant des heures, donc il ne faut pas trop me lancer. Mais dis-moi. Mais si tu veux, j'ai trois questions pour la fin. On peut les faire rapidement, si tu veux. La première, je suis obligé de te la poser parce qu'on parle beaucoup préparation mentale. Et tu vois, là, je vois de plus en plus de jeunes en route vers les Jeux Olympiques qui, très jeunes, se mettent à la préparation mentale. Et moi, je me suis formé pour mon plaisir à moi et aussi pour mieux échanger avec les athlètes, mieux les comprendre, mieux ressentir et progresser dans ce que je fais. Toi, je sais que tu n'en as jamais fait. Tu t'es jamais fait accompagner, mais tu en as fait beaucoup tout seul. Et du coup, j'ai une question. C'est que toi, qu'est-ce que tu as mis en place seul dans ta routine de préparation mentale, qu'est-ce qu'il y avait ?
Alors, pour répondre à la première question, j'ai jamais souhaité me faire accompagner parce que j'ai mis en place une méthode seule et j'avais peur que d'aller voir un préparateur mental et de changer mes habitudes, ça vienne perturber en fait ce qui fonctionnait.
Ouais.
Je pense que quand il y a quelque chose qui fonctionne, il ne faut pas y toucher parce qu'au risque de démonter quelque chose qui fonctionne pour remonter quelque chose qui fonctionne peut-être moins bien.
Et mais je rebondis là-dessus, tu vois, un préparateur mental, il te dira il faut absolument venir le voir quand tout va bien pour mieux comprendre comment ça va bien.
Mais j'ai eu peur justement de comprendre tout, comment je faisais parce qu'il y avait des choses que je faisais de manière...
Instinctive,
sans forcément y réfléchir. Mais pour revenir à ça, il faut se revenir en arrière. Est-ce qui fait que je suis devenu comme ça sur un vélo et en compétition? Je pense que tous les champions, ils ont un moment, quelque chose dans leur vie qui les a peut-être transformés et qui font qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Et c'est souvent une épreuve difficile. Pour ma part, c'était la perte de mon père lorsque j'avais 21 ans. Qui est décédé subitement, c'était pas prévu devant nos yeux. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu une période un peu de doute suite à ça, ou savoir si j'allais continuer, pas continuer. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais continuer pour lui. Mais à partir de là, en fait, tout m'a paru, quand c'était dur, je me disais, bah, de toute façon, ça pourra jamais être aussi dur que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, ben, j'étais animé d'une force et surtout un mental qui me disait non, t'as connu beaucoup plus dur, donc ça c'est pas dur. Et toute l'énergie, je suis quelqu'un qui est très introverti, qui montre pas mes émotions, mais en fait tout ce que j'avais à l'intérieur me défoncer sur un vélo, ça me permettait d'extérioriser, de sortir cette énergie que j'avais en moi. Et puis aussi, mentalement, ensuite, je suis devenu une... J'avais deux personnalités. C'était Julien, le Julien normal de la vie de tous les jours. Et puis ensuite, Julien en compétition sur un vélo, qui est plus le même. Mais c'est lié à cette épreuve de vie, à la base. Et puis ensuite, j'ai affiné ça sur le travail donc mental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais de performance sans stress. Et avec mon entraîneur, simplement, il faut réussir à ajuster le niveau de stress. C'est vrai que des fois, il faut diminuer le niveau de stress parce que le stress peut inhiber la performance quand vraiment il nous accapare de trop. Quand des fois, on a une baisse de motivation, il faut se monter un peu le stress parce que sans stress, ça ne marche pas. Donc, j'avais cette capacité, je ne sais pas comment, on parle de manière instinctive, à pouvoir ajuster le curseur en fonction de ce que je ressentais. Ça, c'est plutôt pour avant la course. Avant de passer en mode course et mode...
Julien Bis.
Pendant la course, j'ai toujours été étonné en fait, de voir ce que j'étais capable de faire en course par rapport à ce que j'étais capable de faire à l'entraînement. Petit exemple, à l'entraînement, si j'avais du rythme course, la moyenne de watts que j'étais capable de tenir en course, à l'entraînement, je la tenais 10 minutes. Alors qu'en course, je pouvais la tenir 2 heures. Et je me disais, mais comment c'est possible ? Qu'à l'entraînement, j'ai l'impression de me donner. Je tiens 10 minutes et en course, je peux tenir ça 2 heures. Et ça m'a toujours fasciné parce qu'en fait, c'est que mental. C'est qu'en course, j'arrive à me transcender, à me mettre dans un mode où je pouvais aller beaucoup plus vite, plus fort. Je n'étais pas un champion de l'entraînement. Quand on prend mes valeurs à l'entraînement, qu'on les comparait à d'autres concurrents, j'étais moyen bon, quoi. Et après, le jour de la course, capable de faire 10 fois mieux. Et ça m'a toujours fasciné. Je pense que c'est un peu comme j'avais cette capacité en course à mettre en mode survie. Je sais pas si t'es déjà arrivé, t'es en vélo et t'as un chien qui te course. Et là, tu te rends compte que t'es capable d'aller vraiment vite quand t'as un mode survie, quoi. Et ben en course, j'arrivais à m'y mettre tout seul alors que j'avais pas de risque pour ma vie. Mais pour moi, me faire doubler, c'est ne pas gagner. C'était comme être en danger de mort, en fait.
Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aurais bien envie de creuser, mais l'heure tourne. Je sais que tu as beaucoup lu. En tout cas, j'ai entendu sur quelques vidéos que tu Et puis ça sent que t'es un passionné, que tu vas au fond du détail, que t'aimes, t'as l'amour du détail en fait. Je pense que c'est l'amour du haut niveau, de la performance aussi. Et ça, c'est un truc que vraiment les grands champions ont, je trouve, cette curiosité d'aller chercher toujours au bout et toujours plus loin. Je sais que t'as beaucoup lu. Est-ce que toi, il y a vraiment des bouquins qui t'ont peut-être, je vais pas dire changé la vie, mais qui t'ont fait progresser, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait être un meilleur Julien, tu vois?
Les premiers livres, c'est ceux de Denis Richer, qui est spécialiste de la nutrition et sport d'endurance, que j'ai dévoré. J'ai dévoré ces livres quand j'étais plus jeune, et j'ai appliqué ensuite les recettes, on va dire, de la nutrition, de sport de performance. Alors il a des livres qui sont assez vulgarisés, qui sont accessibles, et d'autres qui sont vraiment très poussés, notamment lorsqu'il parle de micronutrition, où là c'est un peu plus tendu. J'aime bien aussi lire des biographies d'athlètes, justement pour voir comment ça fonctionne dans d'autres sports, pour aussi comprendre les personnalités de grands champions.
Ok. Bah écoute, moi je peux t'en recommander une si tu veux, celle d'André Agassi. Je sais pas si tu l'as lu. C'est ma préférée, moi, de toutes celles que j'ai lues, et pourtant j'en ai lu beaucoup. Mais pourquoi ? C'est parce que tu comprends en lisant le bouquin que c'est un mec qui aime pas le tennis, qui est pas passionné, et que sa flamme intérieure, tu vois, ce moment dur un peu, c'est rendre fier son papa qui lui a un peu imposé d'être dans le tennis. Il veut, si tu veux, gagner pour que son père un peu le laisse tranquille, quoi. C'est à la fois, moi j'ai fait sport études tennis, donc c'était mon sport, et ça m'a fait vibrer, et en même temps c'est triste parce que tu ressens quelqu'un qui est pas épanoui, quoi, et il y a un peu cet équilibre performance versus douleur qui est très très intense dans le bouquin.
Ce qui est terrible, c'est les parents qui veulent vivre par procuration à travers leurs enfants et qui poussent leurs enfants dans le sport pour quelque chose qu'ils auraient aimé vivre, et ça c'est dur. Tu t'accompagnes tes enfants, mais tu les pousses pas à faire quelque chose que toi t'aurais aimé faire.
Ok. Ouais. Et toi, il y a une biographie qui t'a plu plus que les autres, ou je sais pas, une qui t'a marqué comme ça?
Celle de Sébastien Loeb.
Ok. J'ai
beaucoup aimé.
Ah, je l'ai pas lu.
De Chris Froome.
Ok. Ouais.
Martin Fourcade.
Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, j'ai pas lu celle de Sébastien, donc je la lirai. J'arrive à ma toute dernière question. C'est pas un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. C'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu verrais bien sur une interview, tu vois, sur Extraterrien, de parler un petit peu de tous ces sujets, tu vois, à la fois de ça peut être de prépa mentale, de choix techniques, d'après-carrière, de goût de la victoire, d'amour du sport. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Ça peut être un bon copain, une bonne copine, comme ça peut être une athlète ou un athlète que tu connais pas assez, que t'aimerais bien découvrir, tu vois, sur un format un peu long. Qu'est-ce que tu t'aimerais bien écouter? Ou que tu me recommandes d'aller interviewer? Parce que tu le connais par cœur et que tu me dis, tiens, là.
Ah, tu poses une colle, il y a tellement de... Justement, elle est dans des sports de montagne qui sont trop peu médiatisés, mais le ski, l'alpinisme, parler de le trail en montagne, des sports qui sont ultra durs, mais qui sont pour le moment encore trop peu médiatisés.
Ok. Bon, écoute, je vais voir François Daen la semaine prochaine, donc je vais voir un grand monsieur aussi de l'endurance, donc ça va être pas mal. Eh ben écoute, bon, j'aurais pas eu ta recommandation, mais je sais que tu me diras quelques noms hors antenne, donc c'est pas de souci. Merci infiniment, Julien. Je me suis vraiment régalé. J'ai le sentiment d'avoir passé 2 heures avec un champion, mais surtout un passionné, tu vois, et quelqu'un qui a envie de transmettre. Ça se sent. Donc merci infiniment pour ça. Je pense que ça plaira beaucoup beaucoup aux auditeurs, cette générosité là. Et écoute, j'espère que tu as passé un très bon moment. Et comme on dit par chez moi, je te dis à très bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc salut Julien.
Salut.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !